Mardi 18 septembre, bienvenue à l'aérospatiale. Julie Gagné avec vous pour une heure de plaisir et d'art visuel. Aujourd'hui, dans l'émission, Fanny Hénon-Lévy viendra nous parler d'une soirée qu'elle est allée voir à la Rencontre internationale d'art performance. On discute avec Stéphane Caron, coordonnateur du volet art multi de Première Ovation chez Recto Verso, pour parler justement de cette nouvelle mesure qui s'ajoute à celle qui était déjà bien implantée dans le programme Première Ovation. Également, Daniel Drouin, conservateur de l'art ancien avant 1850 au Musée national des beaux-arts du Québec et co-commissaire de l'exposition Les arts en Nouvelle-France, viendra nous entretenir au sujet de cette dernière exposition qui fait quand même une assez grande synthèse là, de l'art des 150 premières années de notre colonie, de notre Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, la fibre nationaliste vient de s'exacerber en moi. Et devant moi, le souriant Raymond Poirier. Bonjour Raymond.
Bonjour Julie.
Ça va bien?
Mais ça va très bien.
Dans ta revue de presse, est-ce que tu nous tends une petite perche?
Des agrandissements, des fusions, donc des nouvelles de musées et de centres d'artistes au Québec.
Et également aussi Simon Roy qui a fait la sélection musicale cette semaine. Bonjour Simon.
Oui.
Oui, ça va bien?
Ben oui, très bien.
Et qu'est-ce que tu nous as choisi cette semaine?
C'est un artiste du nom de WPN 114. C'est un Italien. C'est Sergio De Carli. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les internets à propos de l'artiste. J'ai fouillé un peu partout. J'ai pas été capable de trouver grand-chose. Tout ce que je sais, c'est que c'est un musicien, c'est un peintre, c'est un sculpteur. Donc, un artiste assez complet. Puis lui, il invente ses propres instruments de musique. Donc, c'est des instruments sculptures qui fait à partir de matériel recyclé. Faudrait que les auditeurs aillent voir sur la page de l'aérospatiale pour voir quelques photos. Ça vaut vraiment la peine. Des instruments vraiment incroyables. Surtout percussifs. Il y a des trucs à cordes aussi. Donc, des instruments vraiment uniques. C'est le cas de le dire.
Avec des sonorités, j'imagine, assez uniques aussi.
Ben oui, c'est ça. On n'a jamais entendu ça. Ça a été créé par l'artiste, donc c'est ce qui rend ça vraiment vraiment intéressant. Donc c'est un album qui est publié sur l'étiquette Parafonica, une étiquette italienne. J'ai eu un petit peu de difficulté à trouver de l'information grâce à la traduction de Google. J'ai réussi à en savoir un peu plus. Mais c'est quand même assez mystérieux. Ça fait assez longtemps qu'il fait de la musique. Ça fait au moins une vingtaine d'années. Donc, il a passé dans à peu près tous les styles musicaux. Puis là, maintenant, il fait sa propre musique.
Intéressant.
Ben oui, c'est ça. Je voulais faire découvrir ça aux auditeurs. L'album s'intitule Dialogi. Puis, donc, c'est ça. On va avoir quatre pièces qui vont passer durant l'émission.
Eh bien, Simon Roy, merci beaucoup. Puis, on t'écoute dimanche à compter de 20h, hein?
Oui, exactement.
Voilà.
Ah ouais, non, 21h maintenant.
Ça, oh! Oui, bon, ça a tout pris pour que j'apprenne l'heure par cœur et elle change. OK, 21h donc, le dimanche, Simon Roy avec Web Musique. On s'en va en pause audio, on écoute une pièce justement de l'album Dialogi sur les ondes de CKRL. Thank you. C'était Dialogue 2003 de l'album Dialogue de WPN 114, une suggestion de Simon Roy que vous pouvez retrouver, pas Simon, mais bien entendu, les suggestions et les liens pour le téléchargement gratuit sur le site l'aérospatiale.wordpress.com et, comme d'habitude aussi, vous pourrez trouver les liens pour les articles que Raymond Poirier a consultés pour sa revue de presse qui s'apprête à commencer.
Et justement, Julie, on a parlé beaucoup dans les dernières semaines de l'été de l'agrandissement au Musée national des beaux-arts du Québec. On sait qu'il y a eu un retour vers l'appel d'offres parce qu'eux n'étaient pas satisfait des prix, des propositions qui avaient été faites. Donc, il y aura pas nécessairement de grands retards, mais bref, peut-être quelques délais de leur côté. Et parallèlement, il n'y a pas simplement à Québec où on parle agrandissement, à Montréal aussi. Et notamment, on avait parlé un peu l'année dernière du Musée d'art contemporain de Montréal qui voulait faire un agrandissement. C'était un projet qui avait été lancé de 88 millions de dollars. Finalement, le projet, ce projet-là avait été mis de côté, trop onéreux, pas assez de participation du privé. Et là, donc, le Musée d'art contemporain lance une deuxième proposition, ici, avec un projet peut-être un peu plus modeste, entre 25 et 30 millions de dollars. Ça sera validé dans les prochains mois par le ministère de la Culture. Et donc, ce qu'on dit, en fait, c'est que ça sera peut-être un peu plus sobre au niveau architecture. Ça va permettre tout de même de faire augmenter de manière assez quand même importante la surface d'exposition et également de garder une dimension quand même d'accessibilité pour le public qui va être intéressant. Donc, c'est ce qu'on nous dit du côté de la presse notamment. Et parallèlement, si on reste à Montréal, il y a aussi le Musée des beaux-arts de Montréal qui, lui, a inauguré la semaine dernière son agrandissement côté locaux éducatifs. On parle quand même là, d'un espace qui passe de 900 mètres carrés à 1500 mètres carrés qui est dédié à des ateliers pour des classes. Il y avait une demande croissante d'élèves donc pour découvrir ces volets-là liés aux arts visuels. Alors donc des ateliers qui sont aménagés en lien notamment pour certaines salles avec un style street art, des choses comme ça. Donc ça, j'ai vu quelques photos.
C'est beau, hein?
C'est vraiment joli. Sérieux, ça a l'air bien fait. Ça sera intéressant de voir si la demande restera croissante également là, de la part des écoles pour vraiment habiter et faire vivre ces nouveaux locaux.
Souhaitons-le.
On le souhaite. Et on passe de Montréal à Chicoutimi, en fait, centre d'artistes là-bas qui s'appelle Espace Virtuel et un autre centre également qui s'appelle Séquence. Eh bien, il y aura fusion entre les deux centres. Ça a été annoncé tout récemment. Nouvelle direction générale également par intérim à tout le moins par M. Sébastien Harvey. Donc, l'ancien directeur général Gilles Sénéchal qui quitte et qui dit, ben regardez, il y a volonté donc de réorganiser un peu la structure administrative. L'idée est de pouvoir bonifier l'offre du côté de Chicoutimi, de la maintenir également. Et donc, ils se sont dit que cette bonification et ce maintien-là, ben, ça passait par la fusion, pas des missions artistiques, mais des administrations des deux centres. Donc, Espace Virtuel et Séquence qui deviennent donc un nouveau Séquence, donc qui s'unissent par le nom, mais on cherchera donc, de ce que j'en ai compris, à garder quand même présentes et vivantes les deux missions artistiques. On verra quel impact ça aura évidemment sur l'offre artistique là, au Saguenay.
Dossier à suivre.
Sinon, trois petites vite en terminant. Premièrement, on parle du peintre Armand Tatossian qui est décédé. Donc, c'est un peintre qui s'était notamment illustré là, dans les années 70-80. Des tableaux qui ont été exposés un peu partout au Québec, en Grèce, en Italie, etc. Son principal fait d'armes, cela dit, c'est donc pour cet artiste canadien d'origine arménienne, d'avoir été le plus jeune membre jamais admis à l'Académie royale des arts du Canada. Donc, il avait été admis en 1973, il était né en 1951. Faites le calcul mathématique. Donc, il a été amené quand même à un âge très jeune. C'est encore lui qui détient ce record-là, même aujourd'hui, à l'heure de son décès. Sinon, on avait parlé l'année dernière, en fait, de la fondation Andy Warhol qui disait, regardez, nous, on ne veut plus authentifier les œuvres d'art d'Andy Warhol. On va dorénavant se consacrer à d'autres missions. Et bien, maintenant, c'est la fondation Keith Haring qui prend le même chemin, qui dit, regardez, nous non plus, on ne se concentrera plus à l'authentification des œuvres du fondateur de la fondation. On va plutôt se concentrer sur des œuvres caritatives. Donc, encore là, peut-être des questions par rapport à l'impact que ça pourra avoir sur le marché des arts, sur le marché de ces artistes-là, dans la mesure où il n'y aura plus de coûts désormais pour évaluer et authentifier les œuvres, puisque des fondations ne sont plus consacrées à cet élément-là. Et puisqu'on parle d'Andy Warhol...
Oui, je vois que t'as une banane.
Oui, j'ai une banane, en fait. La légendaire banane, je pense que les gens l'ont facilement en tête. En fait, une partie de l'album de Velvet Underground.
C'est une pochette,
en fait. Une pochette d'album, donc une banane dessinée par Andy Warhol. Et là, il y a une question de droit d'auteur qui amène The Velvet Underground en cours contre la fondation Andy Warhol, justement. La fondation qui avait utilisé la dite banane en image sur iPhone et iPad, entre autres. Et The Velvet Underground dit, regardez, cette banane-là n'est pas associée à Warhol, est associée à nous. Et donc, vous, Fondation Andy Warhol, vous n'avez pas le droit d'utiliser cette image-là, parce que c'est pas une image qui est associée à Warhol. Évidemment, la fondation qui dit, ben non, c'est une œuvre d'Andy Warhol, ouais. Même si c'est pour illustrer votre album, c'est propriété intellectuelle de l'artiste. Et donc là, il y aura discussion à savoir, ben, qui possède donc les droits d'auteur moraux, si on peut dire, et physiques de cette œuvre-là. Est-ce que la banane est plus associée à Velvet Underground qu'à Warhol, ou inversement, parce qu'il n'y a pas eu de contrat non plus signé pour ça, ça a été fait amicalement. Et donc là, ben, plusieurs années plus tard, c'est les tribunaux qui décideront de la véritable paternité de cette œuvre-là, du moins en termes monétaires.
Ben, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va en résulter.
Moi aussi.
Ben, Raymond Poirier, merci beaucoup à toi.
Ça fait plaisir. Et si les gens veulent chercher et les liens de tout ça, c'est donc l'aérospatiale.wordpress.com.
Et voilà, on s'en va. En pause, on écoute Danza Soto L'Herba. Ensuite, on discute avec Daniel Drouin. C'était la pièce Danza, un extrait à tout le moins de la pièce Danza Sotto l'Erba de l'artiste italien WPN 114. Et là, ben, pour la prochaine entrevue, on revient au Québec, on revient même aux sources de l'art québécois, puisqu'on rencontre Daniel Drouin, conservateur de l'art ancien avant 1850 au Musée national des beaux-arts du Québec et co-commissaire avec Laurier Lacroix de l'exposition Les arts en Nouvelle-France. Daniel Drouin, bonjour.
Oui, bonjour.
Et ça fait long comme titre, hein?
Ça fait long, mais ça fait beaucoup de choses.
Oui, c'est ça. Hein?
Oui.
Les arts en Nouvelle-France, peut-être c'est une exposition quand même de grande envergure là, pour l'histoire de l'art québécois. Est-ce que c'est possible de nous parler un peu de la genèse du projet? Qu'est-ce qui est à l'origine de ça?
Oui, avec plaisir. Écoutez, il n'y a pas eu d'exposition sur le sujet depuis au moins 30 ans, dans un premier temps.
30 ans?
Oui, tout à fait. Et donc, ce sujet était moins passionnant, faut croire, pour les groupes de recherche, que ce soit à l'université ou dans les musées, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de questions qui se posaient. Il y avait des choses qui avaient besoin d'être précisées. Et il y a 6-7 ans, Laurier Lacroix, mon collègue qui est professeur à l'UQAM à Montréal, a décidé d'entreprendre des recherches. Donc, il a fondé un groupe de recherche. Il y a des étudiants aux études graduées qui se sont joints à lui. Et puis, ils ont travaillé avec des sources. C'est ça qui est très intéressant. Une des particularités de ce projet-là, il a travaillé avec des sources, c'est-à-dire avec des inventaires après décès qu'on a ici au Québec, que ce soit à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec ou dans d'autres grands fonds d'archives. Il y a beaucoup de communautés religieuses qui ont des archives très importantes, les
chrétiens
à Montréal, des choses comme ça, et avec de la correspondance ancienne aussi. Et donc, en faisant les recherches dans ces documents anciens-là, ils ont découvert des dizaines, des dizaines, des dizaines et des dizaines d'œuvres qui étaient mentionnées et dont on n'avait plus aucune trace aujourd'hui. Donc, ça, c'est intéressant parce que on apprenait à travers ces documents-là que l'art est présent depuis les tout débuts de la colonie et que l'art était foisonnant.
Mais c'est ça, c'était dynamique, là.
Tout à fait, exactement. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'était des conditions de vie qui n'avaient rien à voir avec aujourd'hui, hein. Ne serait-ce que le transport. La peinture était un médium qui, pour la grande majorité des œuvres, était importé, alors que c'était pas le cas pour la sculpture et l'orfèvrerie, parce que très tôt, il y avait beaucoup de demandes dans ces domaines et des artisans français sont venus s'installer ici. Et une fois dans la colonie, ben ils ont instauré le système de maître-apprenti. Et donc, c'est comme ça que ces médiums-là se sont développés plus rapidement.
Puis pour la peinture, c'est tout simplement parce qu'il y avait moins de demandes, qu'il y a eu moins d'artistes.
Il y avait beaucoup de demandes pour la peinture, mais ça prenait des gens qui avaient une formation solide.
Ouais.
Et il n'y avait pas d'académie ici. Il n'y avait pas de possibilité. Il n'y avait pas de musée. Il n'y avait pas de possibilité de se procurer tout ça, que ce soit les matériaux. Même si les marchands, à partir de la seconde moitié du 18e siècle, vont offrir des pinceaux, de la peinture et des canevas, mais il n'y avait tout de même pas de formation. Donc, ça, c'était beaucoup plus complexe, c'était beaucoup plus compliqué. Et il faut se rappeler que la peinture, ça a été longtemps considéré comme le grand art,
ben oui.
Alors que la sculpture, c'était considéré comme un art mineur.
C'est quand même assez intéressant, en fait, vous parlez de la peinture. Moi, il y a une chose que j'ai observée, bon, quand on visite l'exposition, là, de base, là, on le voit assez aisément, là, les œuvres qui ont été produites par des artistes européens, puis celles, par souvent, c'est des artistes canadiens inconnus. Ou quelques noms,
comme Pierre Lebert.
C'est ça, comme Pierre Lebert, qui nous offre un portrait de Sainte-Marguerite Bourgeois qui est tellement touchant, dont on pourrait croire qu'il a été fait à la fin du 19e siècle, à la limite, là, tellement
oui.
c'est...
Oui, vous avez raison, parce que cette espèce de forme simplifiée,
synthétique, de gauchesse
et a quelque chose de très émouvant, vous avez raison.
Différentes autres œuvres aussi, on sent qu'il y a une maladresse, qu'il y a une naïveté, oui. Soit on maîtrise pas le dessin, soit on maîtrise pas la couleur, mais dans tous les cas, c'est assez particulier, il faut voir ça avec un autre regard que celui qu'on porte habituellement.
Vous avez tout à fait raison, et c'est bien de le préciser aussi.
Peut-être aussi, je reviens peut-être un peu au départ, vous avez dit qu'il y avait des centaines et des centaines d'œuvres qui ont été répertoriées ou bon dont on a retrouvé les traces, mais là-dessus, il y en a plus de 95% quand même qui ont été détruites.
Ben, c'est qu'il y a 95% de tout ce corpus d'œuvres-là. Et quand on parle d'œuvres d'art, là, il faut élargir, là, faut aller plus loin que seulement la peinture, la sculpture, puis les pièces en argenterie, les pièces d'orfèvrerie. On pense aussi au mobilier, on pense au textile, les grandes tapisseries qu'on retrouvait, par exemple, au Château Saint-Louis ou au Palais de l'Intendant dans le quartier Saint-Roch. On pense également aux parements d'hôtel, aux vêtements sacerdotaux que le clergé utilisait.
Oui, il y en a un bel exemplaire d'ailleurs. Hein?
Ben oui, tout à fait. Et évidemment, les œuvres sur papier, le dessin, la stampe, la gravure, c'était les arts étaient présents partout, hein. Et c'était un art utilitaire, c'était un art d'utilité. Le clergé était le principal commanditaire. Eh bien, tout ça est disparu aujourd'hui en grande majorité. C'est disparu. D'abord, il y a eu les changements de goût. Hein? On change d'époque, on change de siècle, on change de goût. Ça va de soi. Évidemment, il y a beaucoup d'œuvres qui ont été détruites par le feu, hein? Les incendies multiples qui ont dévasté une grande partie de notre patrimoine tout au long des siècles. Il y a des œuvres qui ont qui ont été extrêmement utilisés, donc usés à la corde, comme on dit, et remplacés dans ces circonstances-là. D'autres ont été donnés, hein, quand une paroisse voulait se revamper, voulait agrandir son église. On détruisait le vieux temple, on construisait une nouvelle église et on remplaçait tout le mobilier liturgique à l'intérieur. Donc, on donnait les pièces à d'autres paroisses plus pauvres ou d'autres qui commençaient, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pièces comme ça qui se sont promenées. Des pièces après usure étaient remplacées par d'autres, ça je l'ai dit, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a jetées tout simplement. Jetés au rebut, et d'autres qui se sont retrouvés chez les antiquaires, et puis le Québec a été une manne pour les antiquaires qui ensuite ont vendu toutes ces œuvres-là à partir de la fin du 19e siècle, puis une grande partie du 20e siècle à des gens partout au Canada et aux États-Unis.
Ah oui, quand même, hein?
Oui, oui, oui.
Puis bon, vous l'avez dit, il y a vraiment plusieurs disciplines, des disciplines qui aujourd'hui on considère qui relèvent aussi des métiers d'art. Vous avez décidé d'appeler l'exposition « Les arts en Nouvelle-France » pour ne pas faire de distinction, justement, entre grand art et métiers d'art ou...
C'est-à-dire que ce sont des œuvres d'art. Hein? C'est notre patrimoine. Et pendant des décennies, élevé certaines disciplines au rang d'œuvres d'art. Pendant ce temps-là, on en ignorait d'autres. Je donne un exemple. On a des pièces de ferronnerie d'art dans l'exposition.
Ouais.
Une magnifique croix de clocher qui a été installé sur un des pavillons des Ursulines de Québec durant des siècles. C'est une pièce de ferronnerie extraordinaire. Vraiment, on parle de grand art de la ferronnerie. Nous avons aussi la girouette du Collège des Jésuites de Québec qui se trouvait à l'emplacement même où se trouve aujourd'hui l'Hôtel de Ville de Québec. Donc, cette pièce a aussi été installée comme ça au-dessus de ce bâtiment-là pendant des décennies. Et fort heureusement, on a la chance de pouvoir les admirer et de constater comment ce travail était exécuté avec minutie et avec talent.
Oui, puis de les admirer pour leur forme aussi, au-delà de leur fonction.
Oui, oui, tout à fait, exactement. Et c'est intéressant ce que vous dites, vous parlez de forme et de fonction, et c'est d'ailleurs sous ces angles-là qu'on a organisé cette exposition-là. Donc, les trois fonctions principales de l'art au 17e et 18e siècle qui étaient représenter les lieux et les gens, décorer les églises, décorer les intérieurs, les parer de pièces de mobilier, de lambris, de tout ce que vous voudrez, et aussi prier. Donc, on sait que c'est l'une des principales fonctions, et c'est grâce beaucoup aux communautés religieuses québécoises qui ont été de grandes conservatrices qu'on peut aujourd'hui présenter des pièces exceptionnelles.
Et vous avez parlé dans la première thématique de représenter, quand on entre dans l'exposition, à tout moins si on va du côté droit, on est vraiment accueilli par des cartes.
Oui.
Et elles sont fascinantes, ces cartes-là, parce que souvent, bon, ce sont comme les premières manifestations artistiques aussi, là, les cartes des explorateurs, mais c'est de voir la fonction des cartes qui est non seulement d'aider à la navigation et à la connaissance du territoire, mais aussi à la végétation, aux habitants.
À la faune et à la flore, effectivement, et au peuple qui habitait ce territoire, hein, les premiers, donc, à avoir essaimé sur tout le territoire de l'Amérique. Donc, ces peuplades amérindiennes qui sont représentées avec beaucoup de minutie. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je ne suis pas de la même génération que vous, on voyait ces dessins-là reproduits dans les ouvrages d'histoire, et puis on les trouvait un peu farfelus. Mais lorsque on compare avec les textes anciens, par exemple ceux qui émanent des relations des jésuites durant les années 1620, 1630, 1640, eh bien, ce que l'on voit sur ces dessins-là, c'est exactement ce que les jésuites décrivent.
Ouais.
Donc, au-delà de la simple forme artistique, la force, la puissance documentaire de ces œuvres d'art.
Oui, c'est ça, ça devient vraiment des témoignages là, de l'époque qui nous reste encore aujourd'hui. Vous avez parlé aussi, bon, il y a la section décorée, mais j'ai envie d'aller vers la section prier. Il y a des ex-voto.
Oui.
Qui sont quand même assez d'une qualité assez surprenante. Hein?
Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a le Grand Ex Voto de Rivière-Ouelle, qui est une œuvre majeure dans l'histoire de l'art du Québec et du Canada. Donc, une œuvre réalisée durant le premier quart du 18e siècle. Un immense tableau qui est en même temps le premier paysage d'hiver de la Nouvelle-France,
ah ouais?
du Québec et du Canada. On y voit donc trois personnages masculins, deux sont morts et un troisième est agenouillé et prie sa sainte qui est Sainte Anne et il lui dit dans sa prière que puisqu'elle lui sauve la vie, il lui fera peindre cet ex-voto pour faveur obtenue et c'est l'un des plus grands ex-voto que l'on peut trouver à cette époque en peinture. L'artiste est de toute évidence de la Nouvelle-France. Malheureusement, son nom ne s'est pas rendu jusqu'à nous, comme les personnages qui sont portraiturés d'ailleurs. Mais on sait que c'est un paysage donc du Bas-Saint-Laurent, plus précisément de la région de Rivière-Ouelle.
En terminant, Daniel Drouin, est-ce que vous avez voulu, à travers cette exposition-là, donner un caractère un peu sociologique et historique à l'ensemble?
Ben, nous, ce qu'on a voulu, c'est élargir le plus possible pour vraiment saisir l'effervescence de l'art dans une époque où la vie était difficile, où les conditions étaient très difficiles pour la création, mais où l'art était présent partout, et pas seulement dans la peinture et dans la sculpture, et pas seulement dans la sphère religieuse, mais vraiment présent partout. Et, par exemple, je terminerai avec ça, toute la section consacrée aux arts de la table va intéresser énormément d'amoureux, énormément d'épicuriens. Hein? Toute cette orfèvrerie et ces pièces de faïence qu'on retrouvait sur les grandes tables en Nouvelle-France. Donc, c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer avec cette exposition.
De montrer, finalement, même dans les pires conditions, l'humain sent le besoin de s'entourer de beauté et d'art.
Et comme c'est le cas encore aujourd'hui.
Effectivement. Daniel Drouin, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Donc, on peut visiter l'exposition Les Arts en Nouvelle-France au Musée national des Beaux-Arts jusqu'au 28 avril. Et je répète, Daniel Drouin est conservateur de l'art ancien avant 1850 au musée et co-commissaire de l'exposition Les Arts en Nouvelle-France. On s'en va en pause. Au retour, on discute avec Fanny Hénon-Lévy.
Tout ce qui tombe, trois décennies, quatre histoires d'amour, six destinées qui s'entremêlent. Tout ce qui tombe, un texte de Véronique Côté dans une mise en scène de Frédéric Dubois. Une coproduction du Théâtre du Trident et du Théâtre des Fonds de Tiroir, présentée par Hydro-Québec. Tout ce qui tombe, à l'affiche du Théâtre du Trident jusqu'au 6 octobre, information 641-8131 ou letrident.com.
Amateurs de progressif, le Palais Montcalm vous présente Three Friends, le vendredi 5 octobre, 20h. Three Friends, c'est trois anciens membres des Gentle Giant et de 10cc qui revisitent le répertoire de Gentle Giant en y ajoutant quelques nouvelles pièces. Three Friends au Palais Montcalm, du progressif pur, dans la meilleure salle à Québec. Un événement unique. Détails au palaismontcalm.ca.
La barberie. Parce que nous sommes différents.
Pale ale, lime et framboise. Blanche ou mûre. India Pale Ale. Stout impérial.
La barberie. Parce que nous sommes différents.
La 22e édition des Rendez-vous Estrade du 4 au 8 octobre dans le quartier Petit Champlain. Plus de 40 artistes de la Belgique, de la France, du Québec et de Québec vous livreront une musique traditionnelle bien de son temps. Réveillon, Didier Lalloy, Arba des Tornes, Les Folkloristes, Barbeau, Olivier Soucy et bien d'autres.
Que faites-vous, fillette? Que faites-vous sur le tableau?
Les Rendez-vous Estrade, une vision contemporaine des traditions vivantes, des cultures d'ici et d'ailleurs. Estrade.qc.ca.
Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 19h. Pour que nos racines se prolongent dans le ciel de l'avenir, tous les mardis soirs à 19h. Au programme Musique Trad Faux Contemporain, blues de tous les temps pour votre plus grand agrément, en compagnie de Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL.
Cette soirée vous est présentée grâce à la participation du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulézard.com.
Voilà, il est légèrement passé 18h. Vous écoutez toujours l'aérospatiale en compagnie de Julie Gagné à l'animation, Jacques Gignac à la mise en onde. Je vous invite, avant d'entamer officiellement cette dernière partie de l'émission, à venir sur notre site l'aérospatiale.wordpress.com. Il y a l'émission en balado-diffusion, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, pour le téléchargement également des pièces qu'on a entendues sous la suggestion de Simon Roy. Et si vous voulez aussi, ben, vous pouvez toujours devenir à mis avec l'aérospatiale sur Facebook. On donne des nouvelles aussi de cette manière-là. Alors, cette plug étant terminée, on passe dans un autre monde que celui de Facebook. On se dirige plutôt vers le côté des arts multi à Québec avec Stéphane Caron.
Bonjour.
Bonjour. Stéphane, t'es coordonnateur du volet arts multi de Première Ovation chez Recto Verso.
Oui, qui vient d'être lancé il y a 2 semaines.
Ben oui, qui vient tout juste d'être lancé. J'ai posé une question. OK, on va faire de la définition de terme. Quand on parle d'arts multi, là, de quoi on parle,
c'est dire, hein? C'est de l'art qui met pas la primauté sur une forme d'art. C'est-à-dire qui utilise différentes formes d'art, théâtre, peinture, musique, son, vidéo, mais c'est pas défini par du théâtre seulement ou de la danse ou c'est un artiste multidisciplinaire utilise plusieurs disciplines pour arriver à un but X. Mais c'est pas, il met pas
et si tu faisais un peu comme sur la frontière, on pourrait pas te dire c'est de la danse et
c'est-à-dire que son concept utilise des médiums puis des au lieu de par exemple au théâtre on utilise le texte c'est le moteur ou le contenu là, je vais dire ça plus général, tandis qu'en art multi c'est il y a un concept mais on utilise la vidéo, la danse, l'éclairage, le son, la mise en espace. Donc, ça combine plusieurs disciplines.
Fait qu'on est plus dans l'expérience.
Oui, c'est assez expérience. C'est à peu près la définition que les subventionneurs donnent. On réussit à trouver pour ça.
Ouais. Et j'imagine, en fait, bon, là, la mesure vient de prendre place. Ça fait juste 2 semaines qu'elle a été lancée. En 2012, ça devait s'imposer quand même à Québec?
Oui, parce que Première Ovation, il y en a pour les arts visuels, la littérature, la danse, la musique. Il n'y en avait pas pour les arts multi. Puis Recto Verso, ben, son mandat, c'est de promouvoir ça, la recherche, la création, la production et la diffusion des arts multi. Donc,
ça s'imposait qu'on confie aussi.
Ben, quand on connaît les productions de Recto Verso, puis particulièrement le mois multi, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de relèves aussi qui attend. Alors, c'est le volet où il manquait de...
C'est
support,
ça. Hein?
Soutien de la relève.
Tu dis il y avait de la relève qui attend. Ça veut dire que est-ce que le domaine des arts multi souffrait un peu de l'absence de cette mesure-là?
Je pense que oui. Oui. Avant quelques appels que j'ai eus après le lancement.
Ah ouais?
Oui. Oui, c'est toujours bienvenu d'avoir une mesure comme ça pour commencer, là, pour développer, pour se professionnaliser. Là. C'est l'idée de ça. Puis la mesure permet aussi de travailler avec des mentors ou avoir du coaching, comme on dit en bon français. Et il y a 3 types de bourses. Là. Une bourse pour la production et la recherche, une bourse pour une bourse pour la diffusion, puis une bourse pour le mentorat, justement.
Un peu comme dans les autres mesures, finalement. Mais justement, qu'est-ce qu'on attend un peu comme le mentorat, par exemple? Est-ce que c'est un mentorat qui s'incarne différemment en art multi ou...
Non, pas nécessairement. Si un artiste en art multi de la relève, juste entre parenthèses, entre 18 et 35 ans.
Ah oui, c'est comme ça qu'on définit la relève, en termes d'âge aussi.
Voilà. Fait appel à quelqu'un, je pense tout de suite, disons Daniel Danis, qui provient du théâtre, puis qui touche à tout, là, il touche maintenant au texte, à la forme, il questionne. Ben, lui, c'est quelqu'un d'expérience, puis des gens qui commencent là-dedans ont souvent besoin de coaching, ça, pour éviter certains écueils, parce que, à ma connaissance, c'est assez quand même, ça peut être dangereux, là, commencer, puis se lancer là-dedans, dire, moi, je vais faire de l'art multi, puis...
Ouais, le problème, c'est de développer des projets
énormes qui impliquent l'ordinateur, la vidéo, là-dedans, à un moment donné, là, c'est pas mauvais d'avoir quelqu'un d'expérience pour... nous appuyer.
J'imagine aussi que ça fait un bout que vous travaillez là-dessus?
Ça fait un bout. Ça fait à peu près un an et demi que Recto Verso développe ce projet-là. L'entente a été signée au mois de juin, puis moi, je suis entré en fonction au début août pour ça. Mais j'étais déjà dans le coup.
Oui, c'est ça, j'imagine. Hein? Tout
on
un travail préparatoire.
Voilà, en fait, tout préparer ça. Puis voilà, là, on commence à avoir des téléphones et des courriels. Puis je pense que ça va être le fun. J'ai hâte de voir les projets parce que... Ah oui, c'est toujours ça qui est le fun.
Puis les artistes ont jusqu'au 15 octobre pour envoyer leur dossier. D'ailleurs, c'est quoi, mettons, si on parle des conditions un peu, là, si moi je voulais... Je ne suis pas une artiste professionnelle, mais si je voulais... présenter un dossier, qu'est-ce que ça me prendrait plus spécifiquement?
Tu as deux périodes dans l'année où tu peux déposer, 15 octobre, 15 mars 2013. Est-ce que tu prends ça? Bon, je vais prendre un petit papier pour te le dire exactement.
Question de donner les informations les plus justes possibles.
Ça peut être un individu artiste ou un collectif ou compagnie. Un individu artiste, c'est une personne âgée entre 18 et 35 ans, citoyen canadien, est domicilié à Québec ou à la ville de la nation Huron-Wendat. Se déclarer artiste professionnel, soit en disposant d'une formation reconnue par les pairs, ou avoir à son actif des réalisations attestant d'une démarche professionnelle ou en voie de professionnalisation.
OK.
Les critères s'appliquent aussi au collectif. Par contre, le collectif doit être composé de 75% de membres entre 18 et 35 ans, bien entendu.
OK.
Voilà.
Puis, au total, un fonds annuel de 100 000 $ moi, je me demande en termes de bourse, là, ça représente environ combien de bourses par année?
Là,
ça?
Je vais tomber dans la poutine et la confiture.
Ah, ben là, on n'est pas obligé d'étendre.
Je vais te résumer
ça.
La bourse de recherche, création et production, c'est jusqu'à concurrence de 15 000 $ Ça finance 80 % du projet. En diffusion, c'est jusqu'à concurrence de 7 500, ça finance 80 % du projet. Et en mentorat, jusqu'à 2 500 et ça couvre 100 % des dépenses.
OK. Voilà. Donc, quand même, là, c'est
non,
des
c'est
bourses là, qui ont en masse de sens.
Oui, c'est pour commencer, pour se donner un coup de pouce, là, c'est très, très bien.
Et est-ce qu'on espère favoriser la régularité ou la quantité de projets en multi à Québec?
Compte tenu, oui, c'est sûr. C'est le mandat de Recto Verso, c'est de promouvoir ça. Et évidemment, il faut renouveler faut mettre du sang neuf dans l'affaire et rencontrer des nouveaux créateurs. C'est toujours très, très, très positif pour toutes les productions, le mois multi, tout ce qui roule en ce moment.
C'est ça, parce qu'avec le mois multi, on aurait l'impression qu'à Québec, c'est vraiment particulièrement fécond aussi en termes d'art multi. Est-ce que c'est le cas?
Oui, ça roule beaucoup, 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 beaucoup. Puis il y a des gens de Montréal qui viennent de partout. Alors,
qui viennent travailler en art multi à Québec,
en résidence, à Recto Verso, puis au mois multi. De tout et partout.
Puis est-ce que c'est assez représentatif de ce qui se fait ailleurs, qui se fait ailleurs au Québec ou à l'international?
Là, c'est vraiment reconnu pour ça. C'est quelque chose qui est reconnu internationalement. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent travailler ici à cause de ça. Faut plus dire complexe méduse, faut dire coopérative méduse, paraît-il.
Ou à méduse, tout simplement. Méduse, je pense que les gens sont assez familiers avec l'organisme.
La chose.
complexe, coopératif. Je me mêle dans mes mots. Peut-être en terminant, Stéphane Caron, est-ce que vous voulez dire quelque chose aux gens qui s'intéressent à cette mesure-là ou qui sont pas trop certains de vouloir y aller?
Il y a un site internet www.premièreovation.com. Si vous pouvez déposer demande en ligne sur ce site-là. ou déposer directement recto verso ou coopérative Méduse 650 Côte d'Abraham. Vous pouvez nous contacter aussi stéphane.caron@mmrectoverso.org ou 524-7553 poste 8.
Et voilà, comme l'émission est en balado-diffusion, mais là, on n'a plus de raison de ne pas savoir comment trouver les informations. J'ai une dernière question, en fait, tantôt, j'ai dit en terminant, mais quand est-ce qu'on va savoir le nom des récipiendaires des bourses?
C'est à peu près 5 semaines après la date limite.
OK, on donc ça devrait être en décembre.
OK. Ouais, parce que attendre 2 mois, là, non.
Non,
on
hein?
veut que ça roule.
Faut que ça avance. Ben, Stéphane oui. Caron, coordonnateur du volet Art Multi de Première Ovation. Merci beaucoup.
Merci de l'invitation.
Puis, ben, artiste, vous avez entendu l'invitation. Donc, garochez-vous.
15 octobre.
Et proposez vos projets d'ici le 15 octobre. On s'en va en pause. On écoute Volo Spatiale sur les ondes de CKRL. Là, on vient d'entendre un extrait de l'album Dialoguer de l'artiste WPN 114. C'était une suggestion de Simon Roy. Et à l'instant, j'accueille avec moi Fanny Hénon-Lévy pour sa première apparition en ondes. Bonjour Fanny.
Salut Julie.
Ça va bien?
Oui.
T'as passé un bel été, des belles vacances?
Mais merveilleux, un été comme ça à Québec, on en veut tous les ans.
Ah ouais? Pas convaincu. La chaleur, c'est peut-être un petit peu trop, mais bon. Pour le reste, j'étais très contente du beau temps. Là. C'est, je suis pas le rabat-joie de service, là, mais il faisait chaud. Mais bon. de toute façon, on n'est pas là pour parler de l'été. Hein. C'est typiquement un Québécois, d'ailleurs, de parler de la température, mais plutôt de la soirée vietnamienne que tu es allé voir.
Mais l'été, l'été finissant, justement, ça nous invite à aller voir de plus en plus de shows, à s'enfermer un peu plus, puis à aller voir des shows aussi intéressants que les rencontres internationales d'art performance. C'était la 17e édition cette année. Ils ont procédé de façon, à mon sens, intéressante, à savoir par découpage géographique.
Oui, pour la deuxième année d'ailleurs.
Donc, en invitant deux pays d'Amérique latine, deux pays d'Asie et deux pays d'Europe, donc à savoir Uruguay, Colombie, Vietnam, Birmanie. La Birmanie, n'ayant pas obtenu ses visas, n'a pas pu être présente aux rencontres. On va en reparler. Et pour l'Europe, l'Espagne et la Suisse. Donc, ils ont ça s'est déroulé sur deux fins de semaine. La première fin de semaine, sur le côté latine, latino, ouais. Ça, j'ai pas pu y assister, mais ça, j'ai entendu beaucoup d'échos et ça, il y a eu beaucoup de rebondissements. Puis c'était caliente, comme, comme on dit chez eux. Et pour la deuxième partie, j'ai été voir donc la soirée de performance vendredi soir. C'était le Vietnam qui proposait quatre artistes performeurs, donc quatre performances successives d'artistes vietnamiens. Je ne sais pas si je m'aventurerais à donner chaque nom.
Ça peut être assez complexe, les autres aussi.
C'est hein, pour donner le premier nom et ne nommer que lui, Tao Nguyen Phan. Donc, bon, on a quatre artistes très intéressants, assez différents dans leur performance, mais quand même avec une esthétique qui se regroupe. On parle de politique, on parle du rapport à la langue qui est vraiment inhérent au pays. On parle pour l'une des performances du rapport d'un questionnement vie et mort qui est plutôt un questionnement universel puis qui est récurrent dans la performance.
Dans l'art aussi.
Dans l'art, le féminin est très présent. Il y avait un seul performeur, trois femmes.
Ah ouais.
Donc le rapport performance féminine souvent va évoquer le rapport au corps, les limites du corps et puis la place, je dirais, de la femme dans cette société-là qui, les premières performeurs, la première performeuse au Vietnam, c'était les années 2000.
Ah ouais, quand même, c'est vraiment très récent.
C'est quand même assez récent quand on sait qu'aux États-Unis, en Europe, c'est plutôt les années 60-70. Disons 70, c'est vraiment les premières femmes à avoir performé. Donc, je me proposais, pour ceux qui connaissent pas bien la performance, de vite fait brosser ce que... C'est quoi une performance?
Ben oui, parce que quand on essaie de trouver une définition, chaque personne nous regarde en voulant dire merci. C'est ça. Ça ne se définit pas aussi simplement.
Est-ce qu'on se laisse porter? Est-ce qu'il faut trouver un sens à la performance? Est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est le côté performatif comme on l'entend, comme on l'utilise?
Est-ce que c'est un événement unique? Est-ce que c'est un événement qui peut se reproduire?
Exactement. C'est assez hybride comme discipline. C'est aujourd'hui inscrit, ancré, j'ai envie de dire, dans les arts visuels très profondément. On le voit, il y a un événement majeur qui est apparu au MoMA à New York. Il y a eu une rétrospective de Marina Abramović.
Mais c'était il y a deux ans, ça, je crois, la rétrospective.
Mais pour moi, c'est marquant pour le monde de la performance parce que c'est une manière de reconnaître enfin une discipline qui a toujours été en marge, qui a jamais été vraiment reconnue. C'est un art un peu interdisciplinaire qui fait appel à la vidéo,
qui se place en marge de tout ce qui est marché de l'art, puis complètement. La définition institutionnelle.
Qu'est-ce qu'on vend? Il y a aussi le marché de l'art. C'est comment placer cette discipline sur le marché de l'art. Donc tous ces questionnements qui ont été posés. Bon, moi j'ai trouvé une définition bien simple qui est l'apparition dans les années 60 au aux États-Unis puis en Europe, c'est lié surtout de la révolution sociale et sexuelle, qui trouve son expression dans un art qui se détourne de la toile au profit d'actions intégrant le spectateur dans l'œuvre. Je trouve que c'est très complet. On comprend bien que l'interaction avec le public est essentielle et même majeure dans le processus de l'artiste. L'artiste n'a plus besoin d'un médium pour...
D'un intermédiaire
entre lui et son public. Il devient lui-même art, il devient lui-même œuvre d'art et le public participe directement à cette œuvre d'art. Donc sans public, la performance est, j'ai pas envie de dire nulle, mais en tout cas, elle perd de son...
Ou elle a besoin de traces à tout le moins, hein? Dans le sens où on a besoin de photographies parce que, effectivement, c'est ça, il y a quand même la dimension du public qui...
Mais le public est participatif. Par exemple, si on revient à cette soirée de vietnamienne, le public est sollicité tout le long. Je pense à cette dernière performance, je peux donner le nom de la performeur, qui s'appelle Lee Wang, qui travaille avec des végétaux et qui va directement mettre le végétal dans sa bouche et elle va trouver le spectateur, trouver les gens qui sont présents pour leur mettre l'objet dans la bouche. Donc c'est presque du bouche à bouche avec donc c'est très intense. On est dans le noir, elle a juste une lumière au front, tout le monde est en quête de repères. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on peut voir? On peut pas voir. On se laisse porter. Finalement, on se laisse porter par cette obscurité, par un filet d'eau. Et puis on a cet artiste là qui d'un seul coup s'approche de toi. Elle a un truc dans la bouche et elle s'approche pour que tu le mettes toi-même dans ta bouche. Donc elle c'est un relais. Elle te relaye cette nature-là.
Elle entre directement en contact.
Elle entre directement avec toi. C'est sûr qu'il n'y a pas de toucher, c'est pas un bouche à bouche, mais quand même, ce rapport-là intime avec l'artiste, avec le spectateur est quand même assez puissant. Et là il se passe quelque chose dans l'œuvre, dans le processus lui-même de création.
Puis comment les gens réagissaient? Est-ce qu'il y avait des malaises des fois?
Il y a eu un malaise, une jeune femme qui a refusé d'ouvrir la bouche. T'as des gens qui sont restés avec l'objet en bouche jusqu'à la fin de la performance, se prêtant au jeu complètement, d'autres qui l'enlèvent, amusés, d'autres surpris. L'objet est assez esthétique, c'était que des plantes grasses avec un crochet au bout. Okay. Donc ça devient d'un objet végétal naturel, ça devient un objet commercial, si tu veux.
Mais ouais, puis en même temps, le crochet, c'est un peu comme le hameçon aussi.
Mais c'est exactement. Donc il y a vraiment un rapport corps-nature là, mais le rapport au corps de toute manière dans la performance est vraiment a vraiment été poussé à des extrêmes. Je parlais de Marina Abramović qui l'a proposé au MoMA, comme tu dis, il y a 2 ans, une performance de 3 mois où elle était assise sans bouger à longueur de journée, à fixer son spectateur dans les yeux. On pourrait se dire, mais à quoi ça rime?
Mm-hmm.
Ce rapport au corps, ce rapport au temps aussi, avec une parenthèse qui n'est pas mise en scène. C'est quelque part mis en scène, mais à la fois c'est très aléatoire la performance. C'est-à-dire que on dit que le public entre dans le processus de création, il entre véritablement, puisqu'il va influencer la tournure de la performance. Elle peut très bien mal tourner, elle peut très bien s'arrêter net.
Mais comme Marina Abramović qui avait fait la performance où elle avait disposé différents objets dans une pièce, il y avait un couteau, une corde, un revolver, puis après ça, au terme de 2 ou 3 heures, il a fallu que quelqu'un la sorte, parce que là, les gens, ils étaient mis à devenir fous, ils se faisaient pointer au revolver des gens qui l'avaient entaillé, tout ça.
Tout à fait. Donc c'est intéressant aussi notre rapport, ce rapport au corps et la société. En tout cas, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la performance. Je trouve que cette édition, à chaque édition du RIAP, je trouve intéressant de faire la rencontre de pays et de territoires nouveaux, parce que dans le fond, c'est ça le but de faire ce découpage géographique, c'est d'avoir cette notion du territoire, puis de voir comment est envisagée la performance d'un pays à l'autre et comment au cœur de leurs mœurs, ils envisagent l'art. Donc, je terminerai là-dessus.
Et ben moi, je te pose une petite question en terminant. Fanny, as-tu eu l'impression de vraiment d'assister à une soirée vietnamienne en tant que telle? Est-ce que tu as senti vraiment une identité culturelle qui transcendait un peu chacune des performances?
Vraiment. Ouais. Dans le côté très léché, très préparé, très mesuré, dans le goût du détail, dans le rapport au public aussi. On saute pas sur le public, on garde une distance, mais à la fois on l'amène progressivement vers soi, par rapport à une performance européenne où on rentre beaucoup plus frontalement.
Ouais, ouais,
c'est ça, on confronte, on va gueuler, on va déchirer, c'est quelque chose de beaucoup plus recentré et en lien, il me semble, avec aussi le bouddhisme, le tu vois, la méditation.
Ouais, ouais.
Il me semble qu'il y a vraiment des liens à faire avec cette culture-là. C'est directement lié à cette culture.
Donc, ça répond un peu aux interrogations qu'on peut se poser sur la RIAP, l'organisation par pays, les discussions. Mais Fanny et Don Lévy, merci beaucoup.
Merci à toi.
On se revoit dans environ un mois. Hein. C'est souvent assez approximatif. On fait une courte pause audio. On écoute Africa sur les ondes de CKRL. C'est déjà la fin de l'aérospatiale. En terminant, quelques événements. Demain, c'est la journée Ask a Curator, donc poser des questions à un commissaire, et le Musée national des beaux-arts y participe. Donc, vous, si vous êtes inscrit sur Twitter, vous avez juste à suivre le Musée national des beaux-arts du Québec et poser la question directement en incluant A commercial MNBAQ dans le message ou en ajoutant numéro, je sais pas comment on l'a, dièse, Ask a Curator. Également, demain soir, 19h30, conférence de Laurier Lacroix sur les arts en Nouvelle-France. Et vendredi, deux vernissages à 17h à Regard, vernissage de l'exposition Hétérotopie, pardon. Et au lieu, à 19h, vernissage de Karine Payette. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je remercie Jacques Gignac et je vous laisse avec Gilles Chaumel et son émission Folk d'Amérique.